Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
C'était le 17 mars 2020. Les premières restrictions gouvernementales tombaient sur le pays pour ralentir la propagation du coronavirus. 4 ans après, l'heure est au bilan. Avec vous, Nicolas Mariot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, sociologue, directeur de recherche au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Et vous avez publié un ouvrage que j'ai trouvé absolument passionnant. L'attestation, une expérience d'obéissance de masse aux éditions Anna Moza. C'est un livre que vous avez coécrit avec Théo Boulaka. Pour le dire en quelques mots, c'était la première fois que je lisais un livre critique de ce qu'avait fait la France, notamment en matière de confinement, de politique sanitaire, sans bien sûr être un livre qui tombait dans les fantaisies complotistes, Nicolas Mariot. Mais tout d'abord, puisque je vous ai connu alors que vous étiez historien de la guerre, et notamment de la guerre de 14-18, quel lien faire entre la guerre de 14-18 et ce confinement, cette lutte contre le Covid?
Alors, il y en a deux au moins. Le premier, c'est le fait que je m'intéresse depuis longtemps aux questions d'obéissance et de désobéissance. Pourquoi on part à la guerre? Pourquoi il y a eu aussi peu d'insoumis lors de la levée en masse de d'août 1914? Et là, d'une certaine façon, on se posait le même type de questions. Est-ce qu'on allait obéir ou désobéir aux règles? Et puis, l'autre élément de comparaison très, très fort, c'est l'ampleur de la population qui était soumise à ces règles, hein, tout comme en 14-18, c'est l'intégralité de la société française qui subit la guerre et la mobilisation. Les hommes doivent partir, les femmes doivent gérer à l'arrière ce qui se passe. Là, dans notre cas, quel que soit son niveau de vie, son niveau de revenu, le lieu où on habitait en France en 2020, on était soumis, et c'est tout à fait exceptionnel, aux mêmes règles. Même l'impôt sur le revenu, on le sait bien, la moitié des Français ne le paye pas. Là, les règles étaient universelles, au sens les mêmes pour tous les Français exactement. Voilà.
L'ouvrage que vous avez publié, L'attestation, une expérience d'obéissance de masse, est un ouvrage où vous vous livrez à des comparaisons internationales. Si vous deviez situer la manière dont le confinement français s'est caractérisé par rapport aux autres expériences.
Alors, partout dans le monde, sans doute, le confinement, c'est une expérience d'enfermement dans les frontières nationales. C'est pour ça que peut-être on ne s'est pas toujours très bien rendu compte de ce qui se passait ailleurs. Si on prend que le cas européen, bon, il y a une différence fondamentale entre les États du nord de l'Europe, les pays scandinaves, l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Et puis les États du Sud, dont on fait partie, nous, la France, avec l'Espagne, l'Italie, la Grèce. Les États du Nord ont plutôt préservé les libertés publiques en instaurant un certain nombre de règles, fermeture des écoles, interdiction des rassemblements, etc. Mais pas de confinement comme on l'a connu. C'est-à-dire, les gens pouvaient encore aller dans les parcs, se promener librement, etc. C'est la différence fondamentale avec la situation, notamment en Italie, en Espagne et en France, où il y a des règles extrêmement strictes de sortie et surtout un nombre d'amendes et de contrôles de police considérables. Hein. Plus de 20 millions d'amendes à la fois en France et en Espagne.
20 millions d'amendes
20 millions de contrôles, pardon, et 1 million d'amendes.
Ce qui étonne effectivement dans votre livre, c'est que finalement, on se rend compte que la France a été le cadre d'un confinement très strict.
Tout à fait strict et étonnant. On peut dire peut-être que, faute de savoir bien gérer la situation sanitaire, on se souvient de la question des masques, on n'en avait pas, les stocks, etc. Le gouvernement a un peu transformé cette gestion sanitaire, pour laquelle, comme bien d'autres pays, ils étaient un peu désemparés, en une affaire de gestion de police. Où là, c'était plus simple hein, de déployer la gendarmerie, la police partout, d'installer des contrôles sur les routes, etc. et de transformer cette expérience pour montrer qu'il faisait quelque chose en une expérience de, finalement, de surveillance de la population.
Alors, les absurdités avaient ou ont été notées dans ce confinement, le fait que l'on n'ait pas le droit, par exemple, de se promener en pleine nature si on était seul, le fait de limiter le déplacement des individus, là aussi, s'ils étaient seuls, à 1 kilomètre, puis à certaines heures. Ça, ce sont des spécificités françaises, Nicolas Mariot.
Exactement. Il n'y a que l'Espagne qui est allée aussi loin, même un peu plus loin dans des règles aussi dures. Et puis, ce qui est frappant dans le cas français, je crois, c'est que les autorités locales, les maires, les préfets, Bon, mais surtout les maires ont rajouté des arrêtés qui allaient toujours dans le sens d'un durcissement des règles nationales. Ils se sont mis à fermer les forêts autour de chez eux, les berges des rivières, les plages, évidemment les parcs en montagne, etc. Et c'est un des aspects les plus frappants du confinement, je crois, cette espèce de vidange du dehors, des espaces naturels. Hein. On peut dire que autant qu'une expérience d'enfermement, ça a été une expérience d'expulsion du dehors, d'expulsion de l'espace public.
Comment expliquer cela? Pourquoi la France a-t-elle choisi ce type de confinement? Alors, vous avez en partie répondu. Vous avez dit que nous étions démunis, on n'avait pas de masque, on était donc dans une sorte de flou et donc on a choisi la police plutôt que la médecine.
Exactement. Mais c'est difficile à expliquer. C'est plutôt une histoire de vieilles habitudes, d'habitudes de gouvernement des populations. Et on peut dire sans doute qu'en Europe du Nord, en Allemagne par exemple, on a préféré privilégier les libertés publiques, y compris en situation d'incertitude. C'est ce que dit bien le Premier ministre néerlandais Mark Rutte quand il dit « Eh ben, on devait prendre 100% des décisions avec 50% du savoir ». Ça, c'est vrai, c'était le cas pour tous les gouvernements. Bon, ben, aux Pays-Bas ou en Allemagne, on n'a pas dit « nous sommes en guerre », on n'est pas allé jusqu'à restreindre très fortement les libertés publiques comme c'était le cas en France ou en Espagne, et on a fait ce choix-là chez nous. Pourquoi? On le saura peut-être un jour, hein, quand les archives s'ouvriront, espérons-le. Pourquoi de telles décisions ont été prises? Est-ce qu'il y a eu des bilans de tirés? On ne sait pas bien.
Alors, donc, il y a le côté coercitif, ça vous l'avez expliqué Nicolas Mariot, et puis il y a le côté obéissance, c'est-à-dire que finalement les Français qui sont perçus, je crois, comme des Gaulois réfractaires, oui. Ça a été dit, bah finalement ont pas été trop réfractaires.
Non. Globalement, alors là, attention, je parle que du premier confinement du printemps 2020. Ils ont été plutôt obéissants. On a fait une très grande enquête, plus de 16 000 répondants pendant le confinement lui-même, hein, en diffusant un questionnaire en ligne via la presse quotidienne régionale, que je remercie encore pour avoir diffusé l'enquête sur leur site internet. Et parmi les répondants, ben on peut dire globalement que 80% des gens ont plutôt respecté les règles. Voilà, en tout cas les règles de, vous vous souvenez, 1 km, 1 heure, l'obligation de remplir l'attestation avant de sortir. Donc oui, on peut dire que de façon globale, les Français ont été plutôt obéissants.
Pourquoi cette obéissance, alors même que dans notre caractériologie nationale... On a tendance à penser l'inverse, Nicolas Mariot.
Alors, deux raisons. Une raison, un lien plutôt vertical à la police et au contrôle. Hein, le fait que il y a eu quand même énormément de contrôles. Si je prends un tout petit exemple, le département du Lot. Alors, c'est très varié selon les départements. Mais dans le Lot, 145 000 habitants et quasiment autant de contrôles. C'est tout à fait sidérant. Hein. On pourrait penser que presque tous les habitants adultes du Lot ont été contrôlés. Bon, évidemment, on pouvait l'être plusieurs fois, donc c'était pas forcément le cas. Donc, premier élément de l'obéissance, c'est évidemment la peur du gendarme ou de l'amende qui a joué. Il y a évidemment la peur de la maladie qui a joué aussi un rôle, mais également, et c'est ce qu'on essaye de montrer dans le livre, une dimension plus horizontale où là, en gros, et ça c'est peut-être très français, on acceptait les règles si tout le monde était à égalité. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ont passé leur confinement à vérifier que leurs voisins n'avaient pas un petit privilège. Et c'est là qu'on a vu aussi les délations exploser. Énormément de commissariats de police, de radios locales ont témoigné de ça en disant « Notre standard était complètement overbooké par les gens qui appelaient pour dire « Il y a des parents qui jouent avec leurs enfants dans la rue, c'est interdit ». Enfin, ce type de choses-là.
Ouais, alors là, je ne veux pas franchir le point Godwin avant 9h du matin, mais effectivement, il y a une sorte de pratique française de la délation qui existait dans d'autres pays, ou c'est là aussi, Nicolas Mariot, une caractéristique française?
Alors, on ne le sait pas bien, parce que ce qui nous a surpris avec Théo Boulaka en écrivant le livre, c'est que même dans les pays où il y avait des politiques très coercitives, il y a eu très très peu d'enquêtes, y compris journalistiques, sur la gestion policière ou coercitive du confinement. Hein. Même en Italie ou en Espagne, nos collègues sociologues ont peu fait de travaux.
Bah, parce qu'il y avait des commissariats où on disait « n'appelez plus, s'il vous plaît ».
Exactement.
On ne veut plus savoir ce que font vos voisins. Autre particularité française, la paperasse, parce qu'on a quand même créé cette attestation qui était une sorte de miracle.
Alors là, on l'a recopié sur le cas italien, et c'est pour ça que j'ai lancé cette enquête. Ça m'avait tout à fait sidéré dès les premiers jours qu'on ait besoin de s'auto-autoriser, en quelque sorte, à sortir soi-même en signant ce qui s'apparentait au début, je crois, y compris du point de vue des pouvoirs publics, à une déclaration sur l'honneur. Et à partir du 23 mars, quand on doit horodater l'attestation, là, ça devient vraiment un instrument de police qui permet aux gendarmes ou aux policiers de vérifier à quelle heure on est parti, etc. Ce qu'elle n'était pas au tout départ, hein, dans la première semaine.
Et là aussi, au final, qu'est-ce que l'on observe, Nicolas Mariot ? Parce que il y a eu donc un confinement plus strict en France qu'ailleurs. Vous l'expliquez donc dans votre livre « L'attestation, une expérience d'obéissance de masse » aux éditions Anna Moza. Les résultats en France ?
Vous voulez dire en termes de contrôle, etc.
Non, les résultats en termes sanitaires, puisque tout ceci était là.
Alors ça, c'est très très compliqué à mesurer. Il y a eu des études dans le monde. Alors on dit en général que le confinement est efficace. Bon, plein de travaux disent ça, mais ils ne séparent pas l'effet, qui est très difficile à mesurer évidemment, hein, de la fermeture des écoles, de l'interdiction des rassemblements et de l'obligation de rester chez soi. Et quand ces mesures sont mises en place dans un ordre chronologique, pas en même temps, mais dans un ordre chronologique différencié, on s'aperçoit que le rajout de l'obligation de rester chez soi joue finalement peu. Ce sont essentiellement la fermeture des écoles et l'interdiction des rassemblements qui ont un effet majeur. Et finalement, le confinement au sens français, restez chez vous, joue relativement peu.
C'est quand même assez étonnant, là aussi, que finalement, il y ait eu peu d'interrogations a posteriori sur l'efficacité de cette politique sanitaire.
Complètement. Et ça, c'est une des choses qui, à titre personnel, m'a le plus sidéré. C'est-à-dire que quand on regarde après coup, dans les mois qui suivent, il n'y a pas de bilan tiré. Pas de bilan tiré par le gouvernement, ça c'est sûr, qui a presque rien dit, puis qui après s'est complètement tu sur le nombre d'amendes et de contrôles, alors que vous vous souvenez, dans les premiers jours, tous les soirs à la télé, il y a eu tant de contrôles, tant d'amendes, etc., etc. Mais également dans les médias, ça m'a beaucoup plus surpris. Si vous ouvrez Le Figaro, Le Monde, etc., vous ne trouverez pas de grand bilan de l'expérience du confinement sous son aspect coercitif. Hein, je ne parle pas de son aspect médical. Et ça, c'est très étonnant, me semble-t-il.
Nicolas Mariot, L'attestation, une expérience d'obéissance de masse, c'est un livre publié aux éditions Anna Moza, coécrit avec Théo Boulaka. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par un médecin, Jean-Philippe Grivois, spécialiste en médecine interne, qui a été l'un des acteurs dans un hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière de cette épidémie de Covid. Et puis notre camarade Alexandra Delbo, 7h56 sur France Culture.
6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
C'était donc il y a 4 ans, alors le temps a passé et c'est peut-être pourquoi nous pouvons aujourd'hui plus aisément faire le bilan. C'est un peu ce que vous avez fait, Nicolas Mariot, dans ce livre. Vous êtes historien et sociologue et vous publiez L'attestation, une expérience d'obéissance de masse aux éditions Anna Moza. C'est un livre coécrit avec Théo Boulaka. Et puis, nous retrouvons notre camarade Alexandra Delbo. Alexandra, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste scientifique avec Science, bien sûr, mais à l'époque du coronavirus, vous travaillez à la méthode scientifique de notre camarade Nicolas Martin et vous avez notamment collaboré à ces radiographies du coronavirus qu'on avait mises en place à l'époque. Et nous recevons un médecin, Jean-Philippe Grivois. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste en médecine interne, ancien chef de clinique en maladies infectieuses, praticien attaché au service de maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Docteur Grivois, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit, dans le cerveau d'un médecin à l'époque lorsque ce coronavirus débute?
Alors, pour nous, les médecins, particulièrement ceux qui sont impliqués dans la prise en charge des maladies infectieuses, l'histoire, elle débute un petit peu plus tôt, parce qu'on commence à avoir des signaux faibles qui viennent de Chine assez tôt. Dans notre service à la Salpêtrière, on a des contacts avec le service de maladies infectieuses à Pékin, parce qu'il y a un médecin qui est venu se former chez nous. Et on commence à entendre parler de ce virus qui se répand, dont la gravité est difficile à évaluer à l'époque. Il y a les tenants de la grippounette et puis les tenants de la peste bubonique, on va dire. Et nous, les praticiens au contact des patients, on est un petit peu... c'est difficile de se faire un avis à l'époque. Et puis, peu à peu, les choses s'aggravent en Chine. On commence à en parler dans les médias. Et puis, on voit cette espèce de folie qui se passe en Chine, c'est-à-dire que tous les gens sont confinés chez eux. On voit les commentaires des journalistes français qui disent « Jamais ça n'arrivera chez nous, qu'est-ce que c'est que ce pays totalitaire, etc. »
Donc là, on est quoi, en décembre, en janvier ?
Là, on est, voilà, décembre, janvier. On commence, nous, à voir des pneumopathies, des pneumonies un petit peu atypiques, qu'on pense être du coronavirus. On commence à avoir de Chine des données de mortalité qui sont inquiétantes quand on est médecin au contact des patients. Au début, on a un petit peu la trouille, en réalité.
C'est-à-dire, vous aviez peur, vous étiez inquiet pour le pays et pour vous,
Dr. Oui, Grigoire. Les deux. On était inquiet pour la population. Quand on s'occupe de maladies infectieuses, on s'occupe aussi d'immunodépression, puisqu'on est spécialiste du VIH. Donc on est inquiet pour ces patients-là particulièrement, parce qu'on commence à voir que quand même c'est plus que les immunodéprimés, qui en général sont plus atteints par les maladies infectieuses, sont peut-être plus vulnérables aux formes graves. Au début, on n'a pas vraiment la notion que l'âge avancé est un facteur de risque. Et puis on a peur pour soi-même, parce qu'on a peur pour soi-même, tout simplement. Moi, j'ai une double pratique, hein, une pratique en cabinet et cette pratique dans le service de maladies infectieuses à la Salpêtrière. Et quelle que soit la pratique, on commence à être confronté à des Covid. On n'a pas de test au départ.
Vous n'avez pas grand-chose, puisqu'on se souvient que vous n'aviez pas de masque, pas de vêtements particuliers.
Oui, c'est vrai surtout pour les régions où l'épidémie a flambé très fort, par exemple dans le Grand Est. À la Salpêtrière, on a quand même... moi, personnellement, je n'ai pas ressenti de manque de moyens logistiques, de lingerie, voilà, tout ça.
Est-ce qu'on se dit qu'on est face à quelque chose d'absolument inédit, puisque la suite a été folle? Est-ce que vous étiez en capacité de prévoir cette suite, docteur Grigoire?
Alors, assez rapidement, en février, on commence à se dire vraiment, oui, il se passe quelque chose de très inhabituel, qui n'est pas la grippe aviaire, qui n'est pas une pandémie ou le SRAS. On commence à se dire, les Chinois, en fait, ils ont pas un très bon système de santé, ils ont pas réagi suffisamment, ils ont pas réagi comme il fallait, on va faire beaucoup mieux. Il y a un petit peu un péché d'orgueil. Et puis arrive le confinement, on se rend compte que le système de santé, particulièrement les réanimations, commence à être saturé par les patients atteints du Covid.
Mais est-ce que ce confinement, vous l'approuviez, vous, docteur Rivoy, les autres médecins? Est-ce que vous vous êtes dit, finalement, c'est la mesure qui s'impose?
Alors, c'est un petit peu difficile de répondre en tant que citoyen, mais en tant que médecin, il faut savoir que nous, les médecins, on n'a été soumis à aucune contrainte. On avait le droit il fallait faire une attestation pour dire je suis médecin, mais ça n'a pas eu d'impact sur notre liberté personnelle et sur notre liberté de circuler. Moi, j'avais tendance au départ à me dire oui, c'est la solution, on ne sait pas quel est le taux de mortalité et on ne sait pas quel va être exactement le taux d'attaque en France, comment ça va se répondre. Et au moment où les réas commencent vraiment à être saturés, on se dit oui. En tout cas, c'est ce que je me suis dit à l'époque.
Alexandra Delbault, à l'époque, donc vous étiez stagiaire à la méthode scientifique, vous sortiez d'une fac où vous aviez étudié la biologie. Et là aussi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête de futur journaliste scientifique? À quoi sommes-nous confrontés?
Nous, on a eu aussi cette information dès décembre, quand il y a eu les premiers cas en fait en Chine. Donc, au sein de la méthode scientifique, on avait régulièrement des émissions là-dessus. Et on a commencé à en parler notamment dans nos vendredis actus où on parlait justement de l'actualité scientifique. Et on a commencé à soulever ça en le prenant par ailleurs très au sérieux. C'est-à-dire que peut-être contrairement à d'autres façon de traiter un petit peu l'information, c'était de dire, voilà, s'il y a quelque chose qui se passe, c'est pas rien. Et c'est pas parce que c'est la Chine que c'est rien. Ensuite, on a continué à faire plusieurs émissions en janvier, février. Et ce qui a changé, c'est justement le confinement. Et en fait, d'un point de vue seulement de journaliste radio, ben en fait, il n'y avait plus d'émissions scientifiques. Donc en fait, l'enjeu...
Oui, parce qu'il faut se souvenir que pendant 15 jours, il n'y a pas eu du tout d'émissions sur France Culture. Puis, nous sommes revenus d'abord les matins. Au sein des matins, il y avait les radiographies du coronavirus,
là, ouais.
Il y a eu aussi cette période exceptionnelle.
Et justement, au sein des radiographies du coronavirus, donc on avait l'occasion de pouvoir parler dans la matinale par Nicolas Martin, qui, sous l'impulsion duquel s'est formé ces radiographies et qui les présentait. Et l'enjeu, c'était vraiment de décortiquer les études chaque jour et de pouvoir voir comment se créer, se façonner le savoir scientifique à ce moment-là.
Et là aussi, Alexandra Delbault, parce que vous étiez au contact d'une multitude de scientifiques.
Bien sûr.
Ce sont des gens qu'on avait énormément. On n'a jamais vu autant de médecins, d'épidémiologistes qu'à l'époque. Est-ce qu'on se disait que c'était quelque chose d'inédit? Est-ce qu'on en faisait trop, pas assez?
Je crois pas. C'est pas le sentiment que j'ai après avoir eu tous ces scientifiques, chercheurs, chercheuses, médecins. Il faut souligner quand même cet engagement-là. Nous, par exemple, on a été énormément en contact avec eux. C'est-à-dire, c'était l'enjeu de créer presque une mini-émission chaque jour. Donc chaque jour, on avait 1, 2, 3 de ces chercheurs, chercheuses, scientifiques, spécialistes de ces questions-là. Et nous, dès le départ, ils nous disaient qu'il y avait un problème. Et tous nous ont dit que c'est pas une grippette. C'est, je pense, la première chose qui a été dite sur ça. Et après, qu'on manquait de données. Et il y a un point peut-être important, en fait, sur cette question-là, c'est que dès le début, on nous a expliqué qu'en fait, sur le SARS-CoV-1 et sur le MERS, il y avait eu des recherches qui avaient commencé, mais elles avaient pas abouti ou pas continué par manque de financement. Et que c'était une des raisons potentielles pour expliquer aussi qu'on manque de moyens pour comprendre le SARS-CoV-2 au début de son émergence.
Nicolas Mario.
Oui, je trouve qu'on voit bien, là, en discutant autour de la table, la très grande incertitude dans laquelle on était, hein, prendre des décisions dans un temps très très court. Tout ça nous est tombé dessus, notamment le confinement d'un coup, en quelques jours. 10 jours avant, le président de la République appelait encore les Français à sortir, à aller au théâtre, etc., etc. Et puis tout bascule très très vite. Et on le voit, c'était très dur de prendre des décisions. Je pense à la chronique de Jean Lemarié. Quand on a posteriori, on sait aujourd'hui que presque la moitié des morts du printemps 2020 dû au Covid sont des morts en EHPAD. Bon, est-ce que aujourd'hui on a pris la mesure de ça? Est-ce qu'on saurait gérer une nouvelle épidémie dans les EHPAD? J'en sais strictement rien, mais d'après la chronique, on n'en prend pas complètement de chemin. Et cette affaire d'incertitude, elle est très forte parce qu'elle a joué beaucoup pour la peur, sans doute dans la peur du virus, le fait que beaucoup de gens ont eu peur. Et en même temps, notre enquête montre bien que une certaine partie des gens ont été ce qu'on appelle des exemplaires, c'est-à-dire qu'ils respectaient à la fois les interdictions gouvernementales et les conseils sanitaires, porter le masque, se tenir à 1 mètre de distance. Ça, c'est seulement 22% de notre échantillon de répondants à notre enquête. Et il y a 25% de gens qui sont des légalistes qui, eux, obéissent aux interdictions, mais pas aux conseils sanitaires. Donc, pour eux, on peut dire que la peur du virus était assez faible finalement. Donc la situation est à la fois très incertaine et complexe du point de vue des réactions des gens.
Docteur Grivois, est-ce que vous dites à l'époque qu'on est face à un phénomène inédit, non pas en intensité, parce que vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous avez vite compris qu'il y avait quelque chose de particulier, mais sur le plan cognitif, que ce virus n'obéissait pas aux règles des autres virus? Est-ce que c'est la manière dont on appréhende les choses quand on est, comme vous, sur le front?
Alors... Non, on se dit pas que le virus n'obéit pas aux règles des autres virus, parce que de fait, il y obéit. Mais il y a une chose qui est très particulière avec le SARS-CoV-2 et qui est très différent du SRAS en particulier, qui est son cousin assez proche, c'est que il est contagieux avant d'être symptomatique. Et ça change tout en épidémiologie, parce que isoler les gens qui ont de la fièvre, c'est très efficace. C'est très facile. Enfin, c'est très facile. En tout cas, c'est plus facile parce que on sait qui isoler. Mais là, on a 2 ou 3 jours de contagiosité avant le premier symptôme. Et donc, on va rencontrer des gens pendant ces 2-3 jours qui eux-mêmes vont l'attraper, qui eux-mêmes, pendant 2-3 jours, ne seront pas symptomatiques et vont faire ça. Donc, c'est ce qui est très particulier dans l'épidémie du SARS-CoV-2, c'est cette contagiosité qui précède.
Les publics à risque, est-ce que vous arrivez assez rapidement à les identifier ?
Alors, moi, personnellement, dans mon souvenir, parce que tout ça est aussi un petit peu flou, hein, pour moi, c'est pas tout de suite. Mais quand on arrive à mi-mars, au moment du confinement, qu'il y a quand même déjà des choses qui se sont passées dans les institutions du grand âge, on commence à voir que les gens âgés, particulièrement les hommes âgés, hein, parce qu'il y a un sex ratio qui est quand même assez différent dans la mortalité, il y a 2 fois plus d'hommes au départ qui meurent que de femmes, et puis les immunodéprimés, c'est pas une surprise, donc on les a tout de suite scrutés et donc assez rapidement on les identifie comme tels.
Est-ce que là aussi vous avez les moyens de trier entre les différentes thérapeutiques? Je pense évidemment d'abord à ce que le docteur Raoult, et il n'est pas le seul, préconise à l'époque. Est-ce que on a des doutes? Comment ça se passe à l'hôpital?
Alors il faut là, il faut que je dise une chose, c'est que en médecine, la médecine c'est une science un petit peu particulière parce que fort heureusement, on n'a pas le droit d'expérimenter sur notre sujet. Et c'est donc assez long et compliqué de savoir si un traitement est efficace ou non. Et il y a des indices in vitro, c'est-à-dire au laboratoire, qui disent, oui, peut-être que l'hydroxychloroquine pourrait être active, il y a aussi un antiparasitaire, mais on n'a aucune preuve de ça en clinique, c'est-à-dire une fois, quand on le donne aux patients. Et puis, quand on est réanimateur, on sait que l'hydroxychloroquine, ce n'est pas un médicament anodin, surtout pour des patients critiques, parce que, en gros, ça augmente le risque de faire des troubles du rythme cardiaque. Et donc, on doit toujours se poser la question du bénéfice et du risque. Et les gens qui, à moi, me semblent sérieux, ne concluent pas du tout à cette époque-là.
Alexandre Adelbeau, qu'est-ce que on conclut, nous, journalistes? Parce que là aussi, c'est compliqué. Il y a donc le docteur Raoult qui fait ses vidéos à l'époque, qui sont formidablement populaires.
Oui, qui sont assez étonnantes par ailleurs. Il y a une vidéo dont on se souvient un petit peu moins. C'est une vidéo qui a été diffusée en décembre 2019 ou janvier 2020, donc au tout début, au moment où Raoult n'était pas tout à fait connu. Et même sa posture est assez étonnante. Il parle de manière étonnante, il fait ses conférences en fait sur YouTube, c'est peu commun, mais à ce moment-là, ça empêche pas de se dire, de proposer l'hydroxychloroquine comme un potentiel repositionnement de médicaments à regarder, pas forcément à appliquer, mais à regarder. Voilà, c'est pas parce que la personnalité de Raoult est comme ça qu'il faut le mettre de côté. Il n'y avait pas énormément de preuves in vitro, même de faibles en fait niveau de preuves qui tendaient vers ça. Et à la première étude publiée par Raoult et l'IHU, elle était d'extrême mauvaise qualité en fait.
On le voit tout de suite.
Et en fait, c'était un des enjeux aussi des radiographies du coronavirus, c'était de prendre ces publications, c'est même ces pré-publications, donc un phénomène qu'on fait pas trop normalement en tant que journaliste scientifique, et de pouvoir les décortiquer. Et on voit que méthodologiquement, elle tient pas. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est une mauvaise étude et surtout qu'on peut rien en tirer.
Docteur Rivoire, ensuite, il y a la vaccination et là aussi, la manière dont on l'appréhende, beaucoup de gens l'appréhendent avec une grande inquiétude.
Oui, alors la vaccination arrive d'abord assez tôt. Au début, les experts en maladies infectieuses, en immunologie, nous disent qu'il va falloir au moins 3 ans pour développer un vaccin. Et puis, on voit ce vaccin arriver au bout d'un an. Et je pense qu'une partie de la défiance des gens envers ce vaccin vient de ça, du fait qu'ils ont l'impression que ça a été développé à la va-vite. Mais en fait, il y a des vraies raisons qui ont permis ce développement, qui sont en fait des plans pour lutter contre les pandémies mis en place par l'OMS et qui ont recommandé des années avant de faire ce qu'on appelle des plateformes vaccinales. Alors une plateforme vaccinale, c'est quoi ? C'est un vaccin qui est presque prêt, dont il manque juste la dernière brique de Lego pour qu'il devienne actif sur tel ou tel agent pathogène, en l'occurrence virus. La deuxième chose, c'est qu'on connaît assez bien les coronavirus, justement à cause du SRAS MERS-CoV. On sait que les anticorps neutralisants, on sait où il faut agir avec les anticorps neutralisants. Donc on sait déjà que c'est la protéine spike qui va être notre cible, et on sait que avec en particulier les vaccins génomiques et l'ARN messager, on va pouvoir coder cette protéine et assez rapidement, du point de vue en tout cas technologique, fabriquer le vaccin. Après, il va falloir le faire passer par toutes les strates de la certification. Et là, encore, donc, premièrement, plateforme vaccinale. Deuxièmement, on connaît bien les coronavirus. Et troisièmement, il y a un énorme financement de l'administration américaine. Et une autre chose dont on parle moins, qui est un énorme engouement aux États-Unis pour être volontaire sain pour tester le vaccin. C'est quelque chose qui, à l'époque, nous avait un peu amusé en se disant, est-ce qu'en France, on aurait eu trop de volontaires pour faire tester le vaccin? Et on pensait le contraire.
Mais là aussi, et d'ailleurs, ça ne s'est pas arrêté depuis, ce vaccin est entouré, ces vaccins d'ailleurs, parce qu'il y en a eu de différents types, docteur Grivois, est entouré d'un certain nombre de controverses.
Oui, alors, la controverse, je pense qu'elle est plutôt saine et utile. Après, moi, ce qui me gêne, c'est plutôt l'idéologie. Et il y a une frange de la population qui a une idéologie contre les vaccins, en général. Donc, ça, on s'attendait à ce que cela soit réticent. Et puis, on a aussi tous les gens qui ont été inquiets d'une nouvelle technologie, en réalité. Et puis, quand on dit ARN, ADN, on se dit, ça va modifier le génome, ça peut jouer sur la fertilité. Et donc, je pense qu'il y a eu une grosse inquiétude.
Et il faut se rendre aussi compte du rôle des médias là-dedans. C'est-à-dire qu'il y avait une telle incertitude à ce moment-là que on avait aussi tendance à dire prudence, on ne s'est pas forcément tranché pour ça, on avance à petits pas. Et ça a pu être aussi perçu par le grand public comme on ne sait pas et on nous impose en fait derrière quelque chose. Sauf que d'un autre côté, on avait quand même des données qui étaient suffisamment fortes, notamment pour Pfizer et ARN messager, où c'était très bien formé, enfin les études étaient très bien menées sur cette question.
Docteur Grivois.
Oui, je pense que on a péché aussi par le fait qu'on n'a pas voulu dire on ne sait pas. Et moi, je suis pas sûr que ce soit difficile à recevoir pour des gens qui sont pas médecins ou pas scientifiques de dire pour l'instant on sait pas et on va savoir peut-être bientôt.
Impossible de dire on ne sait pas si ce vaccin est inoffensif.
Impossible au départ de dire s'il est inoffensif. Et
vous,
de toute
vous
façon,
pas injecter
aucun
un
médicament actif n'est inoffensif. C'est-à-dire qu'il y a toujours des effets secondaires. Si c'est actif, il y a des effets secondaires. Et la question qu'on doit poser, c'est est-ce que c'est plus dangereux d'attraper le Covid ou est-ce que c'est plus dangereux de faire le vaccin ?
Nicolas Mario.
Je fais un petit teasing pour l'avenir. En fait, l'enquête Vico, la vie en confinement sur laquelle repose le livre se poursuit, puisqu'il y a 5000 personnes sur les 16000 qui ont accepté de laisser leur adresse et on les a réinterrogées régulièrement au fil des confinements suivants, notamment au sujet de leur acceptation ou non du vaccin.
En conclusion, docteur Grivois, est-ce que vous observez le risque d'une prochaine pandémie avec inquiétude? Est-ce que vous vous dites qu'on a beaucoup appris sur cet épisode?
Alors, je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Je suis pas serein à l'idée d'une nouvelle pandémie. on a quand même cette grande répétition générale qu'a été la pandémie du Covid pour un virus potentiellement plus létal. Supposons qu'on ait la même pandémie avec 60% de mortalité, je pense qu'on ne se on se poserait beaucoup moins la question d'être confiné ou pas. Je pense que les gens accepteraient beaucoup plus de privation de liberté. Si vous avez autour de vous 10 personnes qui ont attrapé la maladie et 6 qui sont mortes, vous êtes quand même plus inquiet. Et je pense que on a appris beaucoup de nos erreurs, je pense, de nos erreurs de gestion et de nos erreurs de communication aussi.
Merci, docteur Grivois. Je rappelle que vous êtes spécialiste en médecine interne et ancien chef de clinique en maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Alexandra Delbon, on vous retrouve demain pour Avec Science. Nicolas Mario, votre livre que j'ai trouvé passionnant, L'attestation, une expérience d'obéissance de masse aux éditions Anamosa, coécrit avec Théo Aboulakia.